Bonjour Julien Bayou.
Bonjour.
Vous êtes tête de liste pour l'Europe Écologie Les Verts, pour les régionales en Ile-de-France. L'écologie d'abord. Vous participerez aujourd'hui à Paris à la marche dite des libertés contre les idées d'extrême droite. En quoi l'extrême droite menacerait-elle les libertés publiques en région ?
En région et partout dans le pays, malheureusement. Vous avez malheureusement une extrême droite qui s'installe peu à peu dans les esprits. Et on avait un président de la République qui voulait se présenter comme un rempart contre l'extrême droite et pour nos libertés. Et finalement, on voit bien que nos libertés sont véritablement en danger. Vous aviez cette loi de sécurité globale qui menaçait d'empêcher de filmer. Les éventuelles violences policières, heureusement elles ont été retoquées, mais c'était une atteinte phénoménale à la liberté de la presse. Et tout récemment encore, il a fallu la justice, le Conseil d'État, pour protéger à nouveau la liberté de la presse, la liberté des journalistes à participer aux manifestations, ou le fait de ne pas être encerclé à la fin d'une manifestation par les forces de l'ordre. Et donc il y a un vrai sursaut qui est nécessaire. Et donc pour nous, c'est important de nous réunir, de nous rassembler à l'appel finalement des syndicats de la magistrature, en particulier pour affirmer le soutien aux magistrats, à la justice dans ce pays.
Alors pour les régionales, Valérie Pécresse est en tête en Ile-de-France. Derrière elle, il y a Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Vous arrivez en troisième position dans les sondages. Avec quels arguments comptez-vous remonter la pente en une semaine ?
Bah écoutez, moi je suis heureux, vraiment, que le débat puisse s'engager sur les régionales. C'est un enjeu crucial, c'est un échelon crucial dans la mise en œuvre des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Pour nous, les régions peuvent énormément pour lutter contre le dérèglement climatique et les inégalités. Il y a un vrai cercle vertueux à engager et c'est pour ça qu'on propose un Green New Deal, un plan d'investissement vert massif pour créer 200 000 emplois. Quand on agit pour le climat, on agit pour l'emploi et pour la santé, sur la rénovation thermique, sur l'agroécologie, sur l'économie circulaire. À chaque fois, un euro investi dans le climat, c'est un euro investi pour l'emploi, pour la santé. Et donc c'est avec ces arguments, avec un meeting notamment cet après-midi dans le 20e, un vrai meeting avec des vrais militants, que nous allons pouvoir faire campagne dans cette dernière semaine.
3 milliards d'euros pour ce plan vert en Ile-de-France, pour tripler les exploitations agricoles. Ça crée vraiment encore de l'emploi. L'agriculture, on avait tendance à penser le contraire.
Mais oui, malheureusement, vous avez raison de le souligner, il y a un vrai plan social silencieux. C'est des agriculteurs qui partent à la retraite, sans compter malheureusement tous les suicides de ces agriculteurs qui sont abandonnés en fait par les pouvoirs publics. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est de nous affirmer comme les meilleurs alliés des agriculteurs. On veut préserver les terres agricoles. Je pense aux terres symboliques de Gonesse, dans le Val-d'Oise, ou de Saclay, dans l'Essonne. On veut racheter des terres pour les mettre à disposition de ces personnes qui, aujourd'hui, veulent faire le chemin de s'installer en maraîchage. On veut organiser la transmission, parce qu'il y a plus de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite sans forcément avoir de personnes à qui transmettre. Et puis, il y a un enjeu, c'est de leur assurer un débouché. Et là encore, c'est le cercle vertueux dont je parlais. Ce sont les cantines bio et de proximité et l'option végétarienne quotidienne. Vous voyez, vous installez des agriculteurs, vous leur garantissez le débouché puisque les cantines prennent l'ensemble de la production vous assurez aux enfants une alimentation de qualité.
Julien Bayou, tous les partis se sont désormais emparés de l'écologie. Alors vous allez dire peut-être que c'est par opportunisme, par nécessité certainement. Et dans l'écologie, évidemment, est-ce qu'au fond, ça correspond à une obligation d'être plus écolo que les écolos ?
Oui, moi je me réjouis. Écoutez, en tant que militant écologiste, je discute régulièrement avec par exemple les aînés, avec les anciens, avec le secrétaire national de 1989. Évidemment qu'aujourd'hui, se dire écologiste, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 30 ans. Mais la réalité, c'est que si tous les discours sont verts, maintenant il est temps de verdir les actes. Depuis 2015, c'est la date d'élection de Valérie Pécresse, c'est aussi la date de la signature des accords de Paris pour le climat, et rien n'a été fait. On a perdu en espérance de vie sur la qualité de l'air, on a perdu en espérance de vie sur le bruit une nuisance dont on parle beaucoup trop peu. Et donc, il y a un enjeu à agir réellement. Et moi, je le dis, les écologistes, ce sont les seuls qui font de l'écologie encore après les élections. Donc là, moi, j'ai rassemblé 7 partis politiques, les listes de Yannick Jadot, de Benoît Hamon, de Delphine Bateau. On est avec Pierre Larrotureau également de Nouvelle Donne. Et l'enjeu, c'est d'enfin mettre cette transition écologique au service des habitants de l'Île-de-France.
Pour le second tour, il y a un débat sur l'opportunité de ce qu'on appelle un front républicain contre le Rassemblement national. Alors, sachant qu'Audrey Pulvar, qui est soutenue par le Parti Socialiste, rassemble autour de 11% des intentions de vote, que Clémentine Autain de la France Insoumise est créditée de 10% des voix, est-ce qu'il pourrait y avoir une alliance avec les Verts et les partis de gauche pour le second tour ?
Oui, en Ile-de-France, il faut bien sûr un rassemblement. Je le proposerai au soir du premier tour. Je pense que l'écologie peut rassembler, et même bien au-delà des personnes qui sont pas forcément étiquetées partisanes, mais qui s'intéressent, qui s'éveillent à l'écologie, à la sensibilité du vivant, à la condition animale, au zéro déchet. Il y a une majorité en Ile-de-France pour l'emporter face à une droite qui n'a rien fait sur le logement social, qui est en retard sur la rénovation des lycées, qui a réduit les subventions aux associations féministes ou même de lutte contre le décrochage scolaire. Vous voyez, il y a un enjeu vraiment d'une alternative écologiste et sociale pour l'Île-de-France. C'est ce que nous proposerons au soir du premier tour. Mais en attendant, on fait campagne parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui ne sont pas parfaitement au courant qu'il y a des élections le 20 juin, qu'on peut faire des procurations ce sont les personnes qui se déplaceront qui feront la différence.
Est-ce que vous regrettez, Julien Bayou, que les questions sécuritaires soient devenues omniprésentes dans cette campagne des régionales, sachant que chez les Verts, la sécurité, ce n'est pas la priorité de vos propositions ?
Mais je suis pas d'accord avec vous. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas de sécurité avec l'approche de ce que peuvent faire les régions. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème de sécurité dans ce pays, et particulièrement en Ile-de-France. Et ça, c'est le bilan des personnes qui sont au pouvoir. C'est pas les écologistes qui sont en faute. C'est le ministre de l'Intérieur qui réduit le nombre de policiers. C'est d'ailleurs le bilan de Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse. Et puis, c'est la région de droite qui n'assure pas la sécurité, en particulier des femmes. Si on s'intéresse à ce que peuvent faire les régions, c'est vrai que la sécurité, c'est pas une compétence principale, mais néanmoins, on peut agir, et on doit agir. Je pense en particulier au transport, où les femmes sont les premières victimes de l'insécurité, 100% victimes de harcèlement, des exhibitionnistes, des frotteurs, des harceleurs, des agresseurs. Il n'y a pas de fatalité. Nous voulons des personnes dans les rames, des équipes de médiation, une brigade de tranquillité qui puisse monter dans les rames, se signaler notamment auprès des voyageuses. On veut former l'ensemble des agents à l'accompagnement des plaintes des victimes de violences. Et puis on veut pouvoir porter plainte en lieu et place des victimes. Mais on peut aller plus loin.
Mais nous serons les premiers.
Nous serons les premiers à mettre en place un centre d'accueil pour les victimes de violences conjugales ouvert toute la journée, toute la nuit, à l'image de ce qui se fait en Espagne. Ce sera une première en France.
Eh bien, merci Julien Bayou, tête de liste l'Europe, évidemment, en Ile-de-France.
Merci. Tête de liste écologiste pour l'écologie, évidemment.
L'écologie, évidemment. Merci beaucoup, Julien Bayou, et bonne journée. À suivre, un nouvel invité dans cette matinale.
Le 6-9 du week-end sur France Inter.
Et nous partons dans le sud de la France parce qu'il y a une nappe d'hydrocarbures de 35 km de long qui a été repérée sur la côte est de la Corse dans le secteur d'Aleria Solenzara. Elle dérive sur les côtes. C'est le résultat visiblement d'un dégazage. On va en parler avec vous, Christine Ribes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée basée à Toulon. Qu'est-ce que l'on sait véritablement de l'origine de cette grande nappe de 35 km ? Ce serait vraiment un dégazage ?
Bon, on le suppose, hein. On voit une nappe qui est tendue en longueur. Visiblement, un rejet à la mer d'eau polluée d'hydrocarbures sur d'un bâtiment en route. On n'a pas fait de flagrant délit, on n'a pas vu le bâtiment qui est à l'origine. On ne peut pas garantir qu'on va le retrouver, on peut vous garantir qu'on va le chercher en revanche.
Et donc il y a deux navires qui sont aussitôt partis de Toulon, avec quelle perspective ?
Alors on a beaucoup de moyens engagés, on a des moyens aériens d'abord parce qu'il faut caractériser, localiser, guider les moyens sur l'eau. Et puis on a des moyens sur l'eau. Alors hier on avait des vedettes qui sont parties, vedettes des douanes, ce matin on a une vedette des affaires maritimes, on a un remorqueur aussi un remorqueur de Bastia qui est sur place. Et puis effectivement, deux moyens lourds avec du matériel, des personnels spécialisés anti-pollution qui sont partis de Toulon hier soir et qui arrivent sur zone là aujourd'hui pour pouvoir récupérer un maximum d'hydrocarbures à la mer.
Parce que le plan Polmar a été déclenché. Il faut peut-être nous rappeler ce qu'est le plan Polmar précisément.
Alors le plan Polmar Terre a été déclenché par le préfet de Haute-Corse parce que dès le début, quand en mer on détecte quelque chose, on est en parfaite synergie, je dirais, les autorités à la fois maritimes et terrestres. L'objectif est de travailler ensemble et l'objectif est effectivement de donner un point de situation régulier, d'envoyer des moyens, de se prêter des concours les uns les autres pour pouvoir intervenir en mer et à terre. Voilà, donc par exemple, la base navale d'Aspret va fournir du matériel aussi au profit de la terre et voilà, et on est en parfaite concertation avec eux.
Qu'est-ce que l'on sait de cette masse d'hydrocarbures, hydrocarbures lourds, dit-on, ça veut dire quoi ?
Oui, en fait, vous avez différents types d'hydrocarbures et très rapidement, enfin, dès qu'on a fait les images, alors nous, on a eu l'information d'une possible pollution, on envoie tout de suite l'avion, la Marine nationale pour aller identifier visuellement. Les experts analysent immédiatement les images. On fait également des prélèvements sur zone grâce à une vedette. Et on voit que ces hydrocarbures sont lourds. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas se diluer naturellement, facilement. Ils vont être, ça nécessite des moyens de lutte anti-pollution spécifiques. Donc c'est pour cela qu'on déclenche aussi beaucoup de moyens pour pouvoir intervenir.
Alors qu'il est ce matin à un peu plus de 8h30, est-ce que l'on sait précisément où se situe cette nappe d'hydrocarbures lourds à l'est de la Corse ?
Alors on a des vols en cours, j'ai des informations qui sont qui m'arrivent au fil de l'eau, effectivement des reports par ici 800 mètres de la côte, par là on la voit, on voit bien que elle dérive vers la côte et on voit des éléments de pollution qui se rapprochent.
C'est-à-dire que
effectivement
cette nappe devrait probablement toucher les côtes est de la Corse dans combien de temps ?
Aujourd'hui. Aujourd'hui, alors nous, on récupère un maximum tout ce qu'on peut, on essaie de le récupérer à la mer, mais un hydrocarbure lourd, vous voyez, ça plonge, ça remonte, ça se disperse, donc on sait très bien qu'en mer, on ne récupère jamais la totalité, et donc c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs tout de suite, immédiatement avec la terre, parce qu'il faut qu'on ait, je dirais, une action depuis la mer, depuis la terre, pour lutter contre ces pollutions. Le préfet de Haute-Corse a lui-même appelé à la vigilance et vous pouvez vous rapprocher de leur service, mais l'objectif étant évidemment de ne pas toucher les éventuelles boulettes qui pourraient arriver sur la côte et de prévenir les autorités.
Oui, on va le redire ça. Il s'agit de ne surtout pas toucher, de ne pas retirer ces hydrocarbures parce qu'ils sont nocifs pour la peau, c'est ça ?
Exactement. Donc sur zone, il faut que vous préveniez les autorités terrestres, mer, gendarmerie, pompiers, la préfecture de Haute-Corse qui est en ce moment à la manœuvre à terre, pendant que les équipes en mer sont sous coordination du préfet maritime de la Méditerranée.
Et ces hydrocarbures lourds, ils ne vont pas se disperser naturellement avec le temps par les vagues et le lavage de cette mer Méditerranée. Il faudra bien les retirer, ces masses d'hydrocarbures.
Oui, il y a une toute petite partie qui va se diluer, mais effectivement, on n'est pas sur des hydrocarbures légers, donc on a bien quelque chose qui est plus embêtant. Alors, ça n'est pas un tanker qui est devant l'est de la Corse, c'est bien un bâtiment qui est passé et qui a envoyé de l'eau polluée, donc on n'est pas sur un volume très important. Néanmoins, vous le disiez, quand même une pollution étendue sur 35 km qui dérive vers la côte et avec des produits qui sont lourds, qui ne vont pas se diluer naturellement.
Une dernière question, est-ce qu'on a identifié le navire, le tanker qui serait à l'origine de ce dégazage ?
Non, quand on a été prévenu de la pollution et qu'on a envoyé moyen aérien, il n'y avait plus le bateau autour. On peut pas garantir qu'on va le retrouver. En revanche, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on le cherche et qu'on va le chercher. Voilà.
Merci d'avoir répondu en direct à nos questions sur France Inter ce matin. Christine Rib, la porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée. Donc je vous rappelle cette nappe d'hydrocarbures, 35 km de long, qui a été repérée sur la côte est de la Corse. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup et bonne journée.